aussi avec ces gens-là. Fait que ça facilite tellement notre travail. De là à dire qu'on ne travaille pas, on en travaille une moyenne de traite, par exemple. Mais le privilège qu'on a de travailler dans ce milieu-là, c'est sûr qu'on a un sourire en face. Puis oui, effectivement, ça nous amène à se promener pas mal.
Puis comment va le groupe Aventure Chasse-Pêche?
Très, très bien. Écoute, dans les dernières années, on a subi quand même des subis. On a bénéficié, on va dire, de beaucoup, beaucoup de nouveautés très, très, très intéressantes. On a adjoint des nouveaux groupes à l'équipe, des nouveaux travailleurs à l'équipe. On a pondu des nouvelles plateformes sur le web. On est rendu avec une très grosse plateforme.
Ouais.
L'émission de télévision, ça va super bien. On est rendu diffusé sur des nouvelles chaînes. On s'en va vers des nouvelles chaînes.
J'ai-tu vu 900 000 téléspectateurs?
Oui, c'est, ben, c'est 869 000 plus exactement, de manière hebdomadaire. Ça, c'est dû au fait que, tu sais, on est en ondes 52 semaines par année à raison de 10 fois par semaine, ouais, du côté de Télémag. On est aussi sur Carbon TV. On a gagné pour 2022 le Best New Show of the Year. Je la comprends toujours pas. On est en français, puis c'est même pas sous-titré. Mais écoute, on a gagné cet award-là. On était super contents. Puis là, on a des nouvelles chaînes qui s'en viennent. On ne dévoilera pas tout de suite, mais on a deux nouvelles chaînes majeures qui s'en viennent pour la diffusion de l'émission.
Très cool.
Le magazine. Écoute, qui présentement pourrait prévoir que le papier s'en va en augmentant? Le papier baisse un peu partout et on voit une majoration de nos abonnements. Mais ce qui est trippant, c'est de voir les noms des nouveaux abonnés. C'est beaucoup des noms de jeunes personnes.
Ah.
On voit qu'il y a vraiment il y a une relève dans le domaine. Les gens retournent vers la forêt. Et les jeunes, là, quand on leur donne ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de l'information de base sur comment commencer à pêcher, comment commencer à chasser ou à attraper ou à profiter de la nature, bien, ils mordent là-dedans quand on leur facilite la tâche. Puis, ils s'abonnent au magazine dans des quantités qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Tu sais, je veux dire, il y a il y a même 5 ans, on faisait un plan triennal, quinquennal, où est-ce qu'on regardait le prix du papier aller, le côté éco-entreprise, etc. On va dire, ouais, il va falloir penser à m'en aller à diminuer un petit peu.
Ouais.
Mais on peut pas. Autrement, on se ramasse à aller en réimpression parce que vous arrêtez pas de vous abonner. c'est aussi simple.
C'est un beau problème.
C'est un très beau problème. Puis, c'est le fun de voir en même temps qu'il y a encore quelques années, on parlait d'un problème de relève. Là, on regarde nos statistiques, on paye. Hein, les stations de radio, c'est la même chose. On paye quand même assez cher pour avoir des statistiques plus approfondies, pour comprendre notre auditoire.
Ouais.
On est super, on tripe à l'os de voir que le 18-24 ans, là, il commence à être très, très, très présent. 25-35 aussi. Mais tu sais, les jeunes, de plus en plus, représentent une bonne tranche de notre auditoire puis de notre lectorat. Puis c'est comme, OK, le problème commence à se résoudre de par lui-même. Puis probablement que dans le marché, ça prenait juste des généralistes qui allaient parler un peu plus à la masse. Expliquer, oui, à toutes les années, revenir sur comment faire les nœuds de pêche, les bases.
Ouais.
Les professionnels, souvent, ils savent déjà quoi faire dans le bois. Ils savent déjà comment s'y prendre. Ça prend il y a des médias de très haut niveau qui vont les entertainer. Notre cible, c'est plus le grand public. Puis le grand public, il répond très bien. Puis c'est encore plus le fun, c'est que ce monde-là, on le voit dans les pourvoiries, on va dans le bois, puis on les voit en train de lire leur magazine où ils nous parlent de notre dernière émission. Ouais. Oui, ça amène le sourire.
Mais dans votre cas, vous autres, vous êtes des généralistes professionnels et tout ce que vous faites, moi, j'adore ça. J'adore vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est super beau. Mis à part ton choix de couleur de lunettes, là, tout est parfait.
T'aimes pas le bleu?
Ben, d'après moi, c'est pas toi que j'ai choisi.
Non, c'est cake.
La dernière fois...
Je m'avoue soumis sur certaines questions, ça, c'en est une. Ne pose pas d'autres questions, ben, je vais être obligé de répondre oui aussi.
C'est quoi que t'as dit? Martin, c'est parce que le bleu, ça fait ressortir tes yeux?
J'ai pas tout à fait compris, c'était super beau qu'est-ce qu'elle disait, mais ça devait ressembler à ça.
C'est parfait. Hey, la dernière fois qu'on s'est jasé, Martin Bourget, on parlait du fameux projet de loi C-21. Là. Est-ce qu'il y a eu du développement depuis le temps?
Oui, bien, ça a brassé beaucoup. Hein. Tu sais, le projet de loi, là, on va faire là, un petit tour très rapide. Là. Tu sais, il est mis en place au moment où est-ce qu'on est en état d'urgence sanitaire au travers de ce qu'on appelle un décret en conseil. Ça, là, ça permet à un gouvernement, sans passer devant ses pairs, sans avoir d'opposition, sans passer à l'Assemblée ou quoi que ce soit, de déposer un amendement ou un projet de loi ou un quoi que ce soit, là, on the spot. Et de là, on a fait un grand saut, donc il y a eu les bannissements des AR-15 et de tous les variants, puis le gel des armes de poing. On a fessé très, très fort dans les chasseurs, dans les tireurs sportifs. Et à ce moment-là, ben, les tireurs sportifs appelaient à l'ensemble de la communauté, réveillez-vous, parce que les autres, les chasseurs, les collectionneurs vont aussi être inclus. Mais évidemment, on est arrivé à la fin de l'année passée, donc 2022, avec un amendement à ce projet de loi-là, le G4, le G46, qui est presque plus gros que le projet de loi en tant que tel, mais qui, là, arrive à cibler les armes de calibre semi-automatique à percussion centrale qui possèdent ou qui sont capables de prendre un chargeur de 5 cartouches et plus ou de 5 munitions et plus lors de leur fabrication. Jusque-là, c'est déjà assez large, puis on a déjà un énorme problème avec cette définition-là. On avait un problème aussi avec le fait qu'on liste des armes. Parce que si je vais te donner un exemple, tu es un motocycliste, il y a une loi sur le nombre de dB qu'un pot d'échappement de motocyclette peut émettre. Hein, tu n'as pas le droit d'être en possession ou de faire l'utilisation sur le réseau routier, parce que tu pourrais aller à Talladega ou encore sur une autre piste de course, puis tu aurais le droit d'avoir une motocyclette qui surpasse ce nombre de dB-là. Eh bien, il n'y a pas une liste pour autant dans la législation qui liste tous les pots d'échappement, par exemple, de la compagnie Akrapovic. Parce qu'Akrapovic en fait aussi qu'ils ne font pas ce nombre de dB-là. On ne dit pas non plus que tu ne peux pas avoir un CBR parce qu'il pourrait être doté d'un pot d'échappement qui surpasse un nombre de dB. Dans ce cas-ci, on y va dans du pas mal jamais vu. On fait une législation dans laquelle on a une définition. Il y a aussi une notion d'evergreen, donc une notion de perpétuelle dans la possibilité d'ajouter des armes dans une liste qui décrit des modèles qui sont inclus parce qu'ils pourraient être faits dans un calibre qui surpasserait une des normes qui est le 10 000 joules. Fait que rapidement, avant les fêtes, on a commencé à voir l'opposition se lever haut et fort et à pointer ces noms sans ça. Là, ça prend de la clarté là-dedans. Ça n'est pas clair. Vous allez directement vers les armes des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs, donc les armes des propriétaires légitimes d'armes à feu. Puis si on regarde le projet de loi dans son ensemble, il a été mis en place pour protéger nos rues de la criminalité armée. Puis vous dites vous-même qu'on sait que ça provient de l'autre bord des frontières, puis des armes criminalisées. Les armes des propriétaires légitimes d'armes à feu ne sont pas présentes dans cette histoire de criminalité-là. Donc, on a besoin d'un éclaircissement. On a besoin de faire en sorte à ce que les armes du cultivateur, du trappeur, du chasseur, du tireur sportif ne soient pas inclus dans ces listes-là. Et puis là, on commence à avoir de la réponse de la part des libéraux à ces oppositions-là. Elles disent non, on ne cible que les armes d'assaut. Et là, l'opposition rapidement va prendre des exemples très concrets qui sont dans la fameuse liste. Les Ruger No. 1, Weatherby Mark 5, tous les fusils casseux un coup de la marque Parker et plein d'autres exemples. Et dire, mais voici, ça, c'est des armes de chasse. Vous avez des armes de chasse. Non, les conservateurs sont deep in the lobby of the firearm, deep in the pocket of the firearm lobby. On ne veut que protéger les Canadiens des armes d'assaut. On refuse de répondre à la question. Et ça, là, ça va aller jusqu'à Raquel Danchaud, qui est une des députées conservateurs, qui va littéralement traité de menteur, le ministre de la Sécurité publique du côté libéral, et il va se faire carrément sortir de la Chambre des communes. Et ça, on pourrait presque dire que c'était... On pourrait presque porter une accusation d'orchestration là-dedans, parce que ça l'a... Le fait que Raquel Danchaud se fasse mettre à l'écart pour avoir traité de menteur, quelqu'un qui portait des propos à qui tout le monde portait l'intention mensongère, ça l'a comme allumé les foudres un peu. En plus, c'est Raquel Danchaud, jolie dame, très cultivée, très respectable, en contrôle de ses dossiers, qui, un peu injustement, se met de côté alors que c'est quelqu'un d'autre qui ment. Là, la communauté va s'activer, puis on va commencer à produire beaucoup, beaucoup de nouvelles. Puis là, étrangement, on va commencer à avoir des députés de d'autres partis, dont un député libéral, des députés du NPD, qui vont commencer à se prononcer sur l'hérésie de l'ensemble du cheminement de ce projet de loi-là. Puis ça va aller jusqu'à faire flipper des chapeaux de bord. Là, on en a qui vont sortir publiquement en accusant le processus. Mais là, il commence à avoir une certaine fragilité et hop, les Premières Nations embarquent en s'opposant et hop, les provinces des Prairies, les provinces de l'Ouest commencent à, littéralement, ce matin d'ailleurs, le Yukon, avant les fêtes, l'Alberta, décréter publiquement par la voix de leur premier ministre et de leurs autorités, nous ne souscrirons pas à la loi C-21. Nous allons continuer à gérer notre province avec les lois qui étaient présentes avant mai 2021, je ne me trompe pas. Donc, avant que le projet de loi 2022 ait été déposé. Donc, on se refuse de se plier à cette législation-là. Et là, il y a plusieurs provinces qui commencent à embarquer une en arrière de l'autre. De fait que les libéraux voulaient closer ce dossier-là pour le 25 décembre, le Parti québécois, ceux de qui on s'y attendait le moins.
Le Parti québécois ou le Bloc québécois?
Le Bloc québécois, excuse-moi, tu as raison. Merci de m'occuper. Merci. C'est pour ça que tu es là. Tu vois, j'ai Kate dans ma vie tous les jours, j'ai toi à radio. Le Bloc québécois, à la grande surprise de tous, parce qu'il faut comprendre que dans un projet de loi comme ça, on fait appel à ce qu'on appelle des comités consultatifs. C'est des experts choisis par les différents partis qui vont venir apporter leurs connaissances, puisqu'évidemment, les députés ne sont pas tenus d'avoir des connaissances comme armuriers ou experts en armes à feu. Fait qu'on fait appel à des experts. Il y a un comité d'experts qui a été entendu avant de mettre ce projet de loi-là de l'avant. Et malgré ça, on est arrivé avec un gros amendement qui va en contravention qui contredit complètement ce que les comités d'experts ont fait. Donc là, le Bloc québécois s'avance et dit non, là, c'est le bordel. On a besoin de reconsulter des experts parce qu'effectivement, il y a un manque de clarté là-dedans. On veut mettre de la clarté, on veut que ça soit droit. Donc, on obtient, ça a été la surprise négative, 4 heures de consultation. La beauté de la chose, c'est que ça a empêché les conservateurs de clore le dossier avant les fêtes. Et évidemment, en le reportant après les fêtes, et là, ils viennent tout juste de recommencer à en parler en chambre, le comité permanent sur la sécurité nationale qui parle du projet C-21 et des amendements G4 et G46 reprend tranquillement. Et là, on a recommencé à voir, évidemment, les différents ministres et les différents premiers ministres des différentes provinces s'opposer dans les médias, l'Association des chefs de police, l'Association des services frontaliers. Et puis là, on plane le parfum de l'élection. Déjà, on entendait beaucoup de votes de confiance revoler partout. C'est une chose qui ne se passera pas, d'après moi. Mais là, on voit l'élection planer un petit peu partout. Donc, il y aurait potentiellement, si on pense à Jacques Mingting, entre autres, qui, tranquillement pas vite, de par ses députés, commence à recevoir des messages de « Whoop-a-da, il faudrait peut-être prendre un pas de recul puis observer ce qu'on nous apporte », parce que par souci de clarté puis de transparence, il y a des choses à revisiter là-dedans pour qu'on soit clair. On ne se sert pas ni d'un côté ni de l'autre. On doit protéger les rues et les moyens qui sont mis en place ne sont pas des moyens qui sont jugés comme nécessaires par les associations de chefs de police et les associations de services frontaliers. Nos premiers ministres des provinces s'opposent au projet de loi et disent qu'ils vont y contrevenir volontairement. Il y aurait matière à regarder. Alors, M. Singh va probablement se retrouver dans une position dans les prochaines semaines où est-ce qu'il va avoir à parler. Il va avoir à parler. Et on va flipper un 30 sous dans les airs, là, mais il y a bien des chances qu'il aille dans un discours qui suive un peu ce que le Bloc vient de faire, à dire « bon, attendez un peu, il faut réouvrir les livres et mettre de la clarté là-dedans ».
Mais on se rend compte que, tu sais, Martin, on se rend compte que c'était pas mal plus politique que logique leurs affaires, là. T'sais, c'était pas mal plus pour s'attirer la faveur de certains Canadiens qui n'ont aucune idée à savoir comment ça fonctionne, ces armes-là. Puis, les armes d'assaut, ils servent aux gangs de rue. Mais non, ils servent pas aux gangs de rue, les armes d'assaut. C'est des armes illégales que les gangs de rue ont et ça transite vers les territoires amérindiens. Là. On le sait, là, certaines réserves servent à ça, là.
On a la frontière, la plus longue frontière interpays et la plus poreuse de la planète. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est du non-su, mais les policiers ne se pointent pas dans certaines réserves et savent ce qui se passe. Ça, c'est une chose.
Mais c'est Kanawagé, dans ce coin-là. Oui. Là, je veux dire, tu sais, quand Geneviève Guilbeault dit « Ah, ben on veut essayer de retirer le plus d'armes de la circulation, ça va être la lutte et tout ça », ben moi, tant aussi longtemps qu'elle n'augmente pas les présences policières aux abords des réserves, parce que les Américains, ils passent les armes illégales par ce secteur-là, je veux dire, ce qu'elle va dire, ça vaut rien.
Ah, puis tu sais, je veux dire, dans l'ensemble, les armes, la cigarette, l'alcool, la drogue, des motifs d'accident puis de crime, il y en a qui passent par là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour confirmer ce que tu dis par rapport purement politique, bon, là, je remets la main dessus, là, mais je les écoute tous pour pouvoir faire nos podcasts informatifs, là. Dans une des sessions du comité permanent sur la sécurité nationale, c'est, si je ne me trompe pas, c'est M. Motz ou Lloyd, le conservateur, qui demande clairement aux libéraux de se prononcer, à dire « Mais là, il y a un ensemble d'armes dans cette liste-là là, qui, à part des critères esthétiques ou des critères historiques, hein, des mémorandums d'événements du passé, n'ont aucune raison, suivant les descriptifs que vous nous donnez, à être dans cette liste-là. Pourquoi elles y figurent? » Et Mme Clark, la libérale, répond exactement ce que te dit Yannick. C'est purement politique, monsieur. Il se cache même pas. Non, c'est même pas caché. Là. C'est aussi simple que ça. L'autre partie, ben, c'est l'information au public dont tu parles. les médias de masse, surtout télévisuels, nous invitent en entrevue. On parle des armes qui sont listées, comme par exemple les Astava, les Ruger No. 1, qui est une arme à levier, comme les Winchester Lever Action, là, clic-clic par en tour, les Parker, les casseurs un coup, les fusils, etc., les armes de chasse en crosse en bois un coup à verrou qui sont listées. Et pendant qu'on parle de ça, ils mettent en image, puis là, à un moment donné, il faut que tu choisisses, hein, on a tous déjà vu une régie à la TV, hein, faut que tu choisisses ton keying, là, faut que tu choisisses l'image que tu mets à la TV. Ils nous mettent des fusils, full, des carabines full automatiques en image pendant qu'on parle d'armes de chasse en bois. Puis ces armes-là sont prohibées depuis 1977. Tu sais, le citoyen qui est assis dans son salon, là,
il ne voit rien aller.
Ben, il n'y a pas l'information complète. Ce qu'on lui donne comme information, c'est celle-là. Fait qu'on ne peut pas demander à n'importe qui de juger de ce qui est en train de se passer, puisque l'information à laquelle il a accès, si ta connaissance est égale à ce que tu as accès, là, ben c'est ça qu'on lui livre comme information. Il voit des fois l'automatique, là, il dit hey, « c'est des malades ». C'est ce quoi? Il a raison de penser ça. C'est ce qu'on lui montre. Fait que cette vague de désinformation-là a nuit énormément. On a vu, entre autres, pour ne pas le nommer, Dumont, changer un peu le discours quand vraiment on a fait le tour de la question, qui a eu accès à la liste, qui a vu un peu les définitions qui n'étaient pas claires. Là, il y a un air de questionnement qui a commencé à apparaître dans la face de certains journalistes. On l'a ressenti, mais trop peu, trop tard. Là. Ça fait depuis mai 2022 qu'on nous parle que les chasseurs vont à la chasse à la Gilina Tupé avec des lance-grenades puis des fusils full automatiques, si ce n'est pas des tanks. Là. C'est un peu abrutissant. Oui. Puis l'autre partie qui est terrible là-dedans, là, c'est plate à en parler de même. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect envers les gens. Les libéraux puis les différents groupes là, qui protègent les faits historiques, etc., ont tendance à mettre le sang sur les mains des tireurs sportifs, chasseurs, etc., les propriétaires légitimes d'armes à feu. Donc, on va regrouper tous ces gens-là. Le sang des victimes des terribles événements du passé, là, comme si c'était eux qui en étaient responsables. Moi, j'ai commencé tranquillement pas vite dans les différents podcasts qu'on fait à dire « Oui, mais là, depuis la mise en place, le dépôt du projet C-21 là, en décret en conseil, là, qui devait protéger nos rues, dans lequel on devait prendre des mesures pour augmenter l'efficacité des services frontaliers, mettre des effectifs dans les rues, des forces d'intervention, on en a qui existent. Il y a des opérations qui existent présentement qui sont hyper efficaces. Et que vous décidez de continuer à prolonger ce débat-là en parlant d'armes qui ont aucun rapport avec les descriptions que vous mettez, qui ont aucune parution dans l'histoire de la criminalité du Canada, puis à continuer à étirer le dossier. Combien de morts par arme illégale dans les rues du Canada depuis le dépôt de ce projet de loi-là? Est-ce que vous pouvez, vous aussi, porter le sang de ces victimes-là sur vos mains? Est-ce qu'on peut vraiment... Comme, le projet de loi, là, on ne se mentira pas, Yannick, là, les propriétaires légitimes d'armes à feu, là, dans la forme initiale du projet de loi, mettre des mesures en place pour protéger les rues contre la criminalité armée. Hey, on est tous pour ça. On a plein de programmes, on a plein de formations, on a plein de régulations pour sécuriser l'utilisation commune et contrôlée des armes à feu au Canada. C'est le processus le plus complexe administrativement parlant au Canada. C'est plus compliqué qu'un divorce en termes de paperasse. On se met des moyens en place. On est les premiers, les propriétaires légitimes d'armes à feu, à vouloir mettre des efforts pour améliorer la sécurité dans les armes à feu qui sont permises d'utilisation et améliorer la sécurité dans la restriction d'accès des armes à feu criminalisées ou vers les bandes criminalisées. Depuis l'élection de ce gouvernement-là, ben on a un 80% d'augmentation des crimes par les gangs de rue, une augmentation quasiment aussi élevée dans les crimes violents. Je ne sais pas si tu as vu passer la C5, là, la loi C5 là, qui vise à redonner accès aux peines minimales dans les crimes commis par armes à feu, mais ça cible à empêcher la surreprésentation des Premières Nations et des communautés ethniques dans les milieux carcérales. En même temps qu'on est en train de se garrocher ça par la tête au niveau de C-21, eh bien, on a un gars à Montréal qui s'est retrouvé avec des sacs pleins de drogue puis des guns dedans, puis finalement, il s'est donné une peine à purger dans la collectivité parce que c'est une ethnie qui participerait à la surreprésentation des groupes ethniques en milieu carcéral. C'est-à-dire, on fait pas de sens dans l'ensemble de tout ce qu'on met de l'avant, puis on essaie, nous autres, d'allumer l'ensemble de la population à dire, oui, là, c'est les armes à feu. C'est une belle pancarte bonus qui est épeurante puis qui permet... Le genre de processus qui est en cours présentement, la façon dont on gère l'opposition, la démocratie, on ne répond pas aux questions. On ment sur les réponses littéralement. Là, si on laisse ça aller et si on laisse ce genre de processus-là suivre son cours, Il y a une notion dans la loi qui s'appelle la jurisprudence ou un précédent, appelle ça comme tu voudras. Les deux prochains projets de loi qui se déposent à la table, c'est la C11 puis la C18. La C11 puis la C18, la C11 entre autres, là, elle va donner au CRTC le mandat de régulariser le contenu accessible et diffusable par les Canadiens sur le web. C'est parce que si on laisse dans notre collectivité passer ce processus-là, c'est par le même processus que va passer la loi C11 et la C18, vous n'aurez rien à dire.
Exact. J'ai une question pour ce qui est de la C21. Est-ce qu'il y avait une clause grand-père qui était inclue, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu une arme, un leg là, de la part de son père ou de son grand-père, puis cette arme-là, dans le projet de loi C21, ben, est rendue proscrite. Est-ce qu'il y a une clause grand-père pour ces armes-là qui sont peut-être des armes de collection?
Donc, tu sais, il y a trois catégories d'armes au Canada. Sans restriction, avec restriction et prohibé. Prohibé, c'est prohibé, grand-père ou pas. Et l'ensemble des armes qui sont concernées par la C21 ou listées se voient relayées automatiquement dans le registre prohibé.
OK. Puis à partir du moment où quelqu'un décide qu'il la garde pareil malgré le projet de loi, cette personne-là devient un criminel?
Exactement. On criminalise la personne littéralement. Maintenant, ce qui est moins clair, parce que là, ça, c'est la notion légale. Là. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de « mais où est donc carniard » dans ce torchon-là. Là. Ce qui n'est pas clair, c'est dans la deuxième phrase de la même parution publique, on dit « on va proposer aux Québécois un programme de rachat qui devrait probablement inclure la possibilité pour certaines catégories d'armes d'être conservées par le propriétaire, mais détruites lors de son décès, donc non transférables. » Mais on rappelle en fin de discours que tout ce qui va être transporté dans le prohibé va être automatiquement illégal au Canada. Donc, criminel si en possession. Donc, on n'a pas de clarté dans rien. On n'a pas de clarté sur la définition qui concerne les armes qui vont être dans une liste qui ne suit même pas. Si tu regardes les armes qu'il y a dans la liste, il y en a beaucoup là-dedans qui ne répondent pas à la description qui est en tête. On inclut le terme « variable ». Quand on dit variable, hein, par exemple, l'AR-15, pour ceux qui la connaissent, l'Armalite Rifle numéro 15, qui était une arme pour faire de la vermine au départ pour les cultivateurs, qui a été transformée en arme pour les soldats. Quand on a dit variante, on a dit tout ce qui y ressemble. Par tout ce qui y ressemble, ce qu'on entend et ce qu'on a prohibé dans la première vague, c'est toute arme qui a une poignée pistolet, ou moindrement des pièces qui la rendent plus ergonomique pour le tir, donc dans notre tête à nous, plus efficace quand on va à la chasse ou encore au tir à la cible, bien, ils les ont inclus là-dedans. L'espèce de définition evergreen, l'espèce de définition qu'il y a dans le prohibé, mais programme de rachat qui pourra peut-être conserver, mais n'oubliez pas que c'est prohibé, c'est à tout ça qu'on fait appel quand on dit qu'il n'y a pas de clarté là-dedans. Il y a un manque de clarté et c'est ce qu'on dépose comme demande. Il y a des demandes qui ont été déposées dans les dernières semaines par les différentes fédérations. La FEDCP, entre autres, a fait des démarches dans l'éclaircissement de problématiques qu'on a dans la compréhension. Je te donne un exemple. Quand on parle des armes semi-automatiques qui peuvent éventuellement devenir, pas éventuellement, qui sont décrites comme devenant automatiquement illégales si elles ont plus de 5 cartouches ou plus de 5 munitions dans le chargeur, eh bien, au départ, les libéraux ont dit non, bien là, ce qu'on cible, c'est les armes, c'est les armes d'assaut. Nous autres, on a levé notre main, les chasseurs ont dit oui, mais nous autres, on a plusieurs armes, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'armes dans le domaine de la chasse qui sont des armes semi-automatiques qui, au Canada, étaient livrées à l'origine avec un chargeur de 3 munitions, mais qui étaient disponibles aussi aux États-Unis et dans d'autres pays avec des chargeurs de 5 ou encore 10 munitions. Qu'est-ce qui advient de ces armes-là? Bien là, on vient de voir la réponse passer, là. On dit, ah, ben ça, c'est un chargeur qui était disponible lors de la mise en marché de l'arme, donc ça la rendrait illégale. par cette réponse-là, ils viennent de littéralement dire que la quasi-totalité des armes semi-automatiques de chasse deviendrait illégale dès que le stamp du Sénat va être mis là-dessus. C'est aussi simple que ça. Là, tu sais, au Canada, on parle de 1,6 million d'armes en tout, là, qui seraient... C'est-tu le Canada ou le Québec? Bouge pas de 10 secondes.
1,6 million, c'est au Québec,
oui. Au Québec. 1,6 million d'armes qui est en circulation, excuse-moi, au Québec. Divise ça par 3, là, ça te donne à peu près le nombre d'armes semi-automatiques. On fait ça grosso modo. Je stipule pas, il y a un tiers des armes que c'est des armes semi-automatiques. On va dire, mettons, un quart. Divise ça par 4. Mets ça dans un programme de rachat, mettons qu'on va faire un prix moyen 500$. Multiplie par 500. La dépense de rachat d'armes qui sont non ciblées dans l'histoire de la criminalité au Canada. La répercussion sur les retombées économiques dans les secteurs, parce qu'il y a plusieurs personnes là-dedans qui n'ont pas nécessairement le moyen de se racheter une autre arme. C'est l'arme de grand-papa qu'ils ont entre les mains, puis 500$ aujourd'hui, tu ne vas pas loin. Okay? Juste le prix du programme de rachat de ces armes à feu-là, il faut que la population se rende à quel point c'est des sommes astronomiques. Et là, on ne parle que du Québec. Multipliez maintenant le un quart de 1,6 million par 500, remultipliez ça par le nombre de provinces qu'il y a au Canada.
Ça ne marche pas.
On veut protéger nos rues. On a besoin de ces argents-là pour acheter des meilleurs scanners pour les services frontaliers. On met des effectifs sur le terrain, puis prendre des opérations qui existent présentement sur le terrain, puis qui, avec une poignée de change, réussissent à sortir des criminels armés des rues puis de les réhabiliter. Là, je parle d'Opération Centaure. Tapez Opération Centaure sur Google. Vous allez voir un peu. Là, il y a des effectifs là-dedans là, qui sont excessivement efficaces avec le petit peu de budget qu'ils ont pour l'instant. Prendre une partie de ce budget-là puis mettre ça dans des initiatives comme Centaure, là, on cible un problème réel. C'est ça que la population doit réaliser. On va retirer des armes qui sont nullement reliées avec la criminalité pour donner des centaines de millions de dollars ou des millions de dollars, des beaucoup, beaucoup d'argent quand on en a besoin pour faire ce que le projet de loi devait faire au départ, protéger nos rues, puis on ne le fait pas.
Incroyable. À suivre, comme oui. dirait l'autre. Oui. Maintenant, on a passé énormément de temps sur le projet de loi C-21. Parlons un peu du SHOT Show. Amusons-nous, tiens.
Oui, on va faire ça.
SHOT Show. C'est à Vegas, ça.
Exactement, c'est à tous les ans à Vegas. Dans le passé, c'était un an sur deux à Orlando, là, pour ceux qui s'en souviennent, avec le ICAST, qui est l'appareil du SHOT Show pour la pêche. En fait, le SHOT Show, ce que c'est un peu le show international qui dévoile les nouveautés dans le domaine de la chasse et dans le domaine du tactique aussi, donc pour les forces de l'ordre, les forces militaires. Le SHOT Show, c'est à tous les ans, à Vegas, l'ensemble des manufacturiers qui amènent leurs nouveaux stocks. Là. C'est un show qui est ouvert strictement qu'aux professionnels de l'industrie, le public n'est pas admis. Mais pour te donner une idée de grandeur, là, en termes de superficie, le SHOT Show, c'est 18 acres. Je me répète, 18 acres. Si on parcourrait tous les corridors, là, y compris les nouveautés en haut, là, on est dans les 20 quelques kilomètres d'allée entre les exposants. C'est 2600 exposants. Juste les médias accrédités pour le SHOT Show, il y a 20 000 accréditations médias pour le SHOT Show. C'est énorme, énorme. Souvent, là, quand il y a des salons sur la strip à Vegas, parce qu'il y en a aussi au Mandalay Bay, puis il y en a aussi à Stratosphère, puis un petit peu tout le tour, mais la strip, proprement dit, souvent, c'est distribué en deux, trois shows en même temps. Là, on popule la strip au complet. Là. Donc, le Las Vegas Boulevard, là, ouais. On la popule au complet, les hôtels sont pleins. Fait que là, on débarque là, puis on voit nos manufacturiers. Les Browning, les Beretta, les Mossberg, les etc. avec leurs nouveautés. On découvre beaucoup de nouveaux produits aussi. On est là pour aller chercher ces nouveautés-là, pour pouvoir écrire sur ces nouveautés-là, pour pouvoir faire aussi des chroniques dans l'émission sur ces nouveautés-là, vous amener un peu qu'est-ce qui s'en vient dans le marché. Puis ça, c'est pas mal les nouveautés qui vont voir le jour dans les magasins à l'automne. Pourquoi on le fait plutôt comme ça? Bien, c'est sûr qu'il y a une partie de ça qu'on met en réserve pour les émissions rendues à l'automne, mais on en diffuse une bonne partie à partir du SHOT Show parce que vous avez vu le problème d'approvisionnement dans les dernières années, là? Bien, quand vous voyez ces nouveautés-là passer, là, allez gagner chez votre marchand, là, puis réservez-le, si vous le voulez, cette arme-là ou ce soude de chasse-là, etc. Parce que lui, il a déjà prévu une quantité avec ses prévisionnels de vente, puis vous n'êtes pas nécessairement inclus là-dedans. Fait que si vous ne voulez pas faire avec ce qui reste, parce qu'il y a encore des problèmes d'approvisionnement dans le métal cette année, puis les actions des armes, on ne peut pas les changer de métaux comme on veut, ça amène une densité sectorielle différente, il faut reconfigurer, eh bien, il va y avoir une quantité limitée qui va être livrée. Fait que si vous n'allez pas réserver la vôtre chez votre marchand, bien, vous allez faire avec ce qui reste ou avec pas pantoute. Donc, on vous livre une bonne partie de l'information d'avance. On va là-bas aussi pour produire du contenu. Certains contenus qu'on vous a déjà diffusés, certains contenus qui ont été diffusés pour être utilisés ultérieurement dans les émissions à l'automne, mais principalement pour voir toutes ces nouveautés-là, rencontrer aussi nos partenaires pour voir qu'est-ce qu'on fait avec eux autres dans la prochaine saison, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous présenter. Donc, on déjeune avec un client, on est au SHOT Show toute la journée, on soupe avec un client, puis généralement, on va rejoindre un autre client par après. Pour une moyenne qui dépasse toujours le 20 km par jour. Donc, les pieds, les genoux, les jambes, les hanches, c'est complètement foutu à la fin de la journée. Et là, il te reste 4-5 heures pour dormir parce qu'on repart le lendemain. Alors, c'est super trippant. C'est une belle ville. tout est dans l'exagération. Ça fait des années que je vais là. J'ai évidemment mes petits spots, mes petits restaurants que j'aime bien gros. On a toujours beaucoup de plaisir là-bas. Mais c'est aussi beaucoup de travail. C'est pas pour rien qu'on se garde une journée à la fin pour ça comme ouais, là, on. Finalement, on n'ira pas marcher. On va profiter de la chambre d'hôtel, on va relaxer avant de revenir à la maison avec les enfants. Mais c'est l'événement de l'année dans la chasse puis dans la pêche. Le prochain, ça va être dans la pêche, ça va être pas à l'automne, excuse-moi, mais à l'été du côté de Orlando. Là, on vous présentera le ICAST rendu là.
Okay, puis la loi au Nevada, pour ce qui est du port d'armes, est-ce que les gens ont le droit de porter leur arme à Las Vegas?
À Vegas, j'en ai jamais vu. On nous demande des fois quand on rentre dans les commerces ou quand on rentre dans un hôtel ou quand on fouille nos sacs, est-ce que vous avez une arme? Donc, je présume que le conceal carry, donc le port camouflé, doit être légal, mais honnêtement, je n'ai pas l'information juste et précise. Il me semble d'avoir entendu que pour le Nevada, de manière générale, ce serait permis, mais la ville de Las Vegas, ça ne serait pas. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais honnêtement, je n'ai pas l'information juste là-dessus.
Ouais, ce serait fort possible pour ce qui est du Nevada, parce qu'effectivement, quand je regarde les lois au Nevada, ils disent que ça ne prend pas nécessairement tu peux avoir ton arme sur toi, mais Vegas, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'on pourrait se garder une petite gêne, malgré le fait que ça ferait en sorte que la ville soit extrêmement sécuritaire.
Ben, tu sais... Oui, puis ça, il y a un paradoxe qui existe là-dedans. Je pense que c'est Chicago, je ne me trompe pas, qui est comme le seul État américain ou la seule ville américaine où est-ce que c'est totalement interdit de même transiter une arme à feu par là. Tu ne pourrais même pas avoir d'exposition d'arme à feu. Là.
À Chicago?
Oui, puis c'est la ville aux États-Unis où est-ce qu'il y a le plus de crimes par arme à feu.
Oui, et c'est des gangs de rue, en fait, là.
Ouais, c'est ça. Écoute, il faudrait leur présenter la C-21, voir qu'est-ce qu'ils en disent. Là.
Ceci explique ça. Mais je veux dire, un projet de loi comme ça aux États-Unis, ça passerait jamais. Tu sais, ça prendrait...
Deuxième amendement. Hein?
Ben non, c'est ça, c'est clair. Puis ça prendrait des années et des années et des années avant de mettre ça en place. Puis, tu sais, toi, tu as dit qu'au Canada, avec la C-21, ça a été long avant que l'opposition se rassemble et travaille tous d'une même voix. Aux États-Unis, c'est le contraire. Si tu commences à parler des armes, là, très rapidement, l'opposition...
Tu vas lever une révolte.
Hein? 330 millions d'Américains qui vont être en sacrifice.
Ben, dans le temps de le dire, parce que eux autres, c'est un amendement. Je veux dire, les grands présidents américains leur ont dit, et c'est dans les écrits, méfiez-vous d'un gouvernement qui veut vous désarmer. C'est dans leur culture. On rencontre des Américains qui ont 7-8 AR-15 chez eux. Là, tu parles, tu leur demandes, le taux de criminalité armée dans votre ville. Ben, je me souviens pas du dernier, à part les gangs de rue, mais tu sais, quand on est... Ils savent très bien que les gens ont des concealed carry, des ports cachés sur eux. Fait que les hold-up, un peu moins, parce que si t'as 4-5 gars qui sont assis dans le restaurant puis qui sont potentiellement armés, ben, le voleur ose pas trop. Puis eux autres, ils ont un peu le... There's nothing better than a good guy with a gun to stop a bad guy with a gun. Ça, on l'entend souvent. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gars armé pour stopper un mauvais gars armé. Un peu le principe des forces de l'ordre, dans le fond. Puis... Je te dis pas que c'est mon opinion à 100%, mais ce que je peux te dire, c'est que dans beaucoup de villes américaines, ça se reflète dans les statistiques.
Oui.
Et clairement. Maintenant, il y a aussi beaucoup de criminalité armée, là.
Après la pause, Martin, on s'en va... écoute, on s'en va en Afrique. Tu nous amènes ça en Afrique?
On peut faire ça. On a une couple d'heures de vol devant nous autres, mais je t'amène là.
Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Le soir.
Toute l'équipe de 88 Sports tient à souhaiter une bonne et heureuse année à tous ses clients, collectionneurs, amis et leurs familles. Amateurs de cartes sportives, Pokémon, Funko Pop et toutes autres cartes à collectionner, arrêtez de chercher, passez voir l'équipe de 88 Sports au marché Jean Talon.
À la CCAP, on est plus qu'une compagnie de télécom.
On connecte avec des humains et on a une opportunité d'emploi pour toi.
On recherche un technicien installation et service qui aura pour rôle de raccorder les équipements chez les clients et d'en faire la réparation au besoin. Viens travailler à la CCAP. Assurance collective et cellulaire payée, prime de garde et bonus de bienvenue de 1 000 $. Ta chance de te joindre à la famille CCAP, c'est maintenant.
Postule au carrière.fm.
Wow, tes pantalons, t'es pris où?
Ah, chez Hugo Strong, la boutique de vêtements de travail et de plein air d'Hugo Girard.
L'homme fort?
Oui, il y a du choix et des vêtements robustes pour tous les métiers.
Hugo Strong, des vêtements distinctifs et avant-gardistes répondant à tous vos besoins. 2840 Boulevard Guillaume Couture à Lévis.
Demers. As-tu ton stock pour le ski de fond? Pour un nouveau kit ou juste vous remettre à jour, c'est chez Demers Bicycle et Ski de fond que ça se passe. Le leader en ski de fond est le plus gros inventaire au Canada. Pour toute catégorie et type de skieur, 3e Avenue Québec, demersbicycle.com.
Même sous zéro, tout le monde veut manger chaud. Commandez chez Ben et compagnie et faites-vous livrer par des pros du poulet rôti, toujours chaud, ben chaud, ben, ben chaud. On vous l'a-tu dit que c'était chaud? Ben et compagnie, votre voisin vraiment généreux.
Pour le plus grand choix de motoneige Polaris 2023 en stock au Québec, passez voir votre concessionnaire Pro Performance à Boischâtel et Saint-Raymond. Motoneige Polaris 2023 disponible pour livraison immédiate. Taux de financement Polaris à partir de 6,99% jusqu'à 72 mois. Properformance.ca pour les détails.
Saviez-vous que près d'une maison sur cinq a une concentration de radon trop élevée? Faites le test avec Radon Provincial afin de savoir si votre maison est sécuritaire. Offert en ligne à partir de 49 $ pour un temps limité. Protégez ceux que vous aimez avec Radon Provincial.
Chez Cuisine Steph et Max, on reconnaît l'importance accordée à la cuisine comme lieu de rassemblement. C'est pourquoi nous donnons vie à vos projets les plus personnalisés. Contactez-nous et démarrez le projet de vos rêves. Cuisine Steph et Max, fiers partenaires de votre quotidien. StephetMax.com.
Coiffeurs et coiffeuses, faites affaire avec l'atelier mobile des produits ciseaux pour affûter vos ciseaux. Depuis 2011, les produits ciseaux font leur tournée des différents salons pour donner des conseils et entretenir votre outil de travail. Les produits ciseaux, SIZO.ca.
Le Centre de services scolaires des navigateurs remercie les parents, partenaires et particulièrement les enseignants et membres du personnel. Vous êtes essentiels à la réussite des élèves. Contribuez vous aussi à l'épanouissement de nos jeunes. Postulez au cssdn.gouv.qc.ca.
Vous avez une entreprise et vous avez atteint un plateau? Atteignez de nouveaux sommets avec G2 Marketing. Que ce soit pour augmenter vos ventes ou votre notoriété sur le web, G2 est l'entreprise de marketing qui trouvera la recette secrète de votre réussite. Obtenez des résultats rapides avec g2marketing.ca.
Commencez à rêver à l'été avec Piscine LMJ, spécialisée en construction de piscines en béton armé sur mesure. Creusée, semi-creusée, hors-terre, spa, Piscine LMJ s'adapte à tout type de terrain. Finition durable. Service clé en main, de la conception à l'installation. Voyez nos projets lmjinc.ca.
Obtenez toujours le meilleur prix chez Lunetterie Bélan. Profitez du forfait monture et verre à 99 $ pour les verres simple vision et à 249 $ pour les verre progressif. De plus, en janvier, économisez jusqu'à 100 $ à l'achat d'une deuxième paire. LunetterieBélan.com, service qualité bas prix.
Quand il fait froid, offrez-vous une bonne dose de réconfort avec Bouffe et Compagnie. De délicieux repas prêts à réchauffer et à savourer en moins de deux. Choisissez parmi une multitude d'options de repas au format qui vous convient. Menu renouvelé chaque semaine. BouffeetCompagnie.com. Vous vous apprêtez à vendre votre propriété? Choisissez l'expérience Patrick Allary pour la plus grosse vente de votre vie. Une équipe Remax premier choix avec un service humain et clé en main. Notre objectif, que vous touchiez le maximum de votre investissement. Point final. Visitez lepatrickallary.com.
Cet hiver, venez vivre l'expérience du Spa des Neiges en famille ou entre amis. Avec son espace semi-privé pour 8 à 15 personnes, le Spa des Neiges offre le plaisir et la relaxation. Essayez notre menu et notre nouvelle carte des vins et cocktails. Détails au spadesneiges.com.
En ce début d'année, vendez votre propriété avec moi, Marilène Côté-Gaudreau, courtier immobilier Remax, et gagnez votre certificat de localisation, déménagement et plusieurs prix en collaboration avec Rica Design, Armand Perrault Boucherie et Exact Marketing. Concours.marilenecourtier.com.
Boulevard 102. La radio rock de Québec.
Boulevard.
Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec. Boulevard 102. C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Ce soir, on a le plaisir de parler de chasse et de pêche avec l'excellent Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Martin, t'es toujours avec nous?
Absolument, je suis toujours à l'antenne.
Des belles grosses lunettes bleues, on les aime, tes grosses lunettes bleues, qui n'ont pas été choisies par toi, mais plutôt par la personne qui partage ta vie, et on s'en doutait tous.
Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Ah, je pense qu'on vit tous un peu la même chose à la maison, Martin.
J'ai abdicté. Écoute, elle aime mes lunettes, c'est parfait.
Ouais, c'est ça. Tant qu'elle, elle aime ça, tes chums, laisse faire ça. Tu nous amènes en Afrique du Sud.
Oui, Afrique du Sud. Puis tu sais, l'Afrique du Sud, là, c'est particulier. Hein? L'Afrique du Sud, on l'a vu sur toutes les coutures, puis on nous l'a présenté sur toutes les coutures, puis je m'explique. T'as-tu déjà passé ça, l'UNICEF, toi?
Ben oui, quand on était jeune, c'est sûr.
Et là, à l'école, on nous présentait là, les pays qu'on finançait avec ça, parce qu'il y a d'autres pays que l'Afrique du Sud, évidemment. Mais entre autres, l'Afrique du Sud, là, comme étant, ça n'a pas de bon sens. Les animaux meurent là-bas, il n'y a pas de monde, ils n'ont plus de viande, ils n'ont plus de... La première fois que tu débarques à Johannesburg, tu te demandes si c'est là qu'ils fabriquent les BMW, les AMG, les Mercedes, les Porsche, les Audi, etc. Tu fais un méchant saut. C'est une ville qui a beaucoup de richesses. C'est un pays qui a beaucoup de richesses, mais aussi énormément de pauvreté. La gestion que fait le gouvernement sud-africain, de sa ressource, que ce soit les ressources, les différentes industries ou encore la ressource naturelle, elle porte vers ça. Tu rentres dans les villages, tu as une grosse cabane à 1,5 million, le reste, c'est des huttes en paille. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le mode de vie là-bas. La deuxième des choses qu'il faut réaliser, c'est que l'Afrique du Sud, et c'est une des choses qui, moi, dans le passé, a fait que j'ai refusé d'aller chasser en Afrique du Sud pendant des années.
Pourquoi?
Le marché noir de la viande, le marché des animaux et des étiquettes après l'oreille qui sont infirmes pour se faire abattre, j'avais pas bien d'appétit pour ça. Un enclos de la grosseur de ma cour avec un impala et une étiquette orange à l'oreille acheté à l'encan la veille, paf, tu tires là-dedans, finalement, on te sert du steak à pas cher en dedans, puis on vend ton impala sur le marché noir. Je dis pas que c'est une généralité, là, faut faire attention. Mais juste le fait que c'était présent là-bas, moi, j'étais un peu réfractaire.
Un peu hésitant. Puis il y a aussi le marché des médecines traditionnelles, Martin.
Oui.
Les médecines traditionnelles asiatiques où ils te demandent un produit particulier qui se retrouve chez un animal qui est assez rare.
Pénis de tigre.
Les quoi?
Le pénis de tigre.
C'est vrai? T'as déjà, oui. Est-ce que tu as déjà bu une tisane au pénis de tigre?
Non, pas. Non, ben non. Non. Tilleul. Moi, je me tiens au tilleul.
Tu sais, les défenses d'éléphants et tout ça, je veux dire, oui, il y a le marché noir, là, ben oui.
Et tu sais, la façon dont le gouvernement sud-africain gère la faune, je vais prendre le parc Kruger, par exemple. Le parc Kruger a une capacité de soutien, je vous l'explique, là, en termes de végétaux pour nourrir les éléphants, là, il est capable de contenir et de faire vivre environ 2500 à 3500 éléphants maximum. Mais l'éléphant, c'est un animal emblématique. Et Greenpeace et les autres organisations aiment beaucoup ça et versent d'énormes sous pour protéger les éléphants au gouvernement africain. Du fait que le gouvernement sud-africain a stoppé entièrement la chasse, qui est un mal nécessaire dans le contrôle du cheptel d'éléphants dans le parc Kruger, parce que là, si tu diminues la capacité de soutien du milieu en bouffant tous les arbres qu'il y a là, c'est les autres espèces animalières aussi qui mangent la claque. Mais présentement, sur une capacité de 2500 à 3500 éléphants dans le parc, il y en a 35 000. Un éléphant, quand ça mange, ça met sa papatte sur l'arbre et ça sac l'arbre à terre pour aller manger les belles feuilles tendres, les nouvelles pousses. Mais ces mêmes arbres-là sont essentiels à la nidification de plein d'oiseaux de proie. Il y a plein d'espèces comme le petit coudou, certains springbucks, etc., qui ont besoin de certains végétaux en particulier pour survivre. Ils ne peuvent carrément plus survivre dans le parc national Kruger parce que ces végétaux-là sont presque complètement disparus. En contrepartie, les pourvoyeurs, pas tous, mais une très grande partie des pourvoyeurs. D'abord, 99 % du territoire de l'Afrique du Sud ou 90 % du territoire de l'Afrique du Sud, c'est du terrain privé, possédé par quelqu'un qui a une maison dessus, une entreprise ou une pourvoirie, dans laquelle il y a des animaux et ils ont le mandat de conservation. Ils se doivent de conserver une certaine quantité d'animaux pour être capables, à la demande, d'en fournir pour réintroduire dans les parcs comme le parc Kruger. Alors présentement, et quand tu regardes l'Afrique de la bonne façon, ce serait vrai de dire que si tu stoppes demain matin les chasseurs internationaux d'aller en Afrique du Sud et le tourisme international relié aux safaris, et etc., tu détruis la faune africaine parce que tu viens de leur retirer le moyen au travers des pourvoyeurs qui ont le mandat de la pérennité des cheptels. Tu viens de leur retirer le moyen d'assurer cette pérennité-là en faisant de la conservation. Alors là, moi, je refuse d'y aller encore parce que je dis, bon, ils vendent la viande. Je dis, bon, ça ne m'intéresse pas de tirer une affaire à une étiquette après l'oreille. Mais aller ici à la ferme du chasseur, c'est à côté de chez nous, l'entreprise. Je vais encourager le local rendu là. L'Afrique, ce n'est pas chez nous. Puis Pat, un de mes bons chums, Pat Deck, dit, mais Martin, moi, je chasse chez Eland Safari. On est complètement au nord de l'Afrique du Sud, frontière Zimbabwe-Botswana, sur le long du Limpopo, proche du parc Kruger.
Okay.
Ça, c'est une grosse, grosse propriété qui font énormément de conservation. Ils ont des parcs d'élevage, de la grosseur du village chez vous, puis l'enclos principal est plus grand que la ville chez vous. Ils renouvellent leur génétique, libèrent une certaine quantité d'animaux dans le parc pour les chasseurs internationaux et les locaux pour la viande, et ils assurent toujours une pérennité puis une conservation de façon à ce qu'ils peuvent fournir lorsque c'est demandé. Ils participent à l'effort de conservation et c'est eux autres aussi achètent des animaux à l'encan pour en réintroduire dans leur parc de reproduction pour renouveler la génétique ou améliorer la génétique quand il y a des tares génétiques. Mais de manière générale, ce sont des animaux qui sont nés là, qu'on chasse. Puis tu vas voir sur place, on va manger la viande de nos animaux qu'on chasse et le reste, tu vas voir les traqueurs et les skinners africains partir avec le reste de la viande dans leur village. Ben, je vais y aller une shot. Déçois-moi pas, parce que c'est sûr et certain que non seulement j'y retourne pas, mais ça s'adonne que je parle à la TV une fois de temps en temps, ça se peut que tu me trouves pas drôle.
Tu vas le dénoncer.
Oui, littéralement. Finalement, j'écoute, avoir le moyen, je me bâtirai un camp, ça pourvoirie là-bas, c'est rendu des amis, on y retourne année après année. On a négocié pour être capable d'amener du monde avec nous autres. Fait que là, on fait vivre en plus le voyage à plein de Québécois pour une poignée de peanuts comparé à ce que c'est. On fait nos chasses, on est sur le tour du feu à rire, à se faire du fun. On fait cuire notre viande sur le feu dans le camp. On est dans un genre de 5 étoiles, mais on fait pas du 6 pas cuisine, on fait cuire ça sur le feu, puis on mange là. On mange la viande des animaux qu'on chasse, on mange très bien. La viande là-bas est vraiment... Quelqu'un qui aime là, les grosses qualités de viande, là, vieille, wagyu, petit, c'est quasiment assaisonné juste par le vieillissement de la viande, là. On va adorer les animaux là-bas.
C'est quoi les animaux les plus prisés par les chasseurs là-bas? Est-ce que c'est... j'imagine que l'éléphant, t'as pas le droit de chasser ça, là.
Oh oui, t'as le droit.
T'as le droit de chasser un éléphant? Non. Est-ce que ça, c'est l'animal le plus prisé chez les chasseurs?
Non, non du tout. C'est quoi? Tu sais, je veux dire, mettons, on va éclairer tout de suite, là, les African Big Five, là. L'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard, puis l'autre qui est là-dedans, c'est quoi déjà? Le Cape Buffalo. Le Cape Buffalo, c'est plus comme un bovin ici. Lui, on l'accepte, il est chassable, il y en a quand même en bonne quantité. Mais rhinocéros, ouais, mais Martin, éléphant...
J'ai des suggestions pour les Africains, moi, d'Afrique du Sud. Ils pourraient amener un bovin qui, somme toute, est extrêmement intéressant à chasser puisqu'il est pratiquement impossible. C'est une vache de Saint-Sever. Pendant des mois, ces vaches-là peuvent se sauver sans que personne puisse les voir et les récupérer.
Et hey, là-bas, ils les auraient mangés sur l'asphalte direct, là, je vais te le dire. Parce que ça, c'est une autre réalité. Hein. Quand on croise les villages, hein, si je te le dis, là, on s'en reparlera après, là, mais si à un moment donné, tu peux te permettre de monter avec nous autres là-bas, là, même si c'est pas pour chasser comme accompagnateur, la première des choses, c'est moins cher que bien des 5 étoiles, là, même bien des 4 étoiles dans le sud, là, et on passe 10 jours là-bas, là, tu vas triper, hein. Mais quand tu passes proche d'un village, là, tu croises du bois, là, je te mets au défi de faire 25 km à gauche, 25 km à droite, puis trouver un animal vivant. Attends. Il tue tout.
Ah ouais?
Il tue tout. Ce que tu vas trouver, c'est des sacs à vidange dans les arbres. C'est tout. Quand tu arrives sur les terrains des pourvoyeurs, là, c'est entretenu. Il y a des champs qui sont plantés pour que les animaux mangent. Il y a des points d'eau. C'est nettoyé, c'est entretenu. Les animaux sont en santé, sont protégés. C'est pas pareil. Puis tu sais, nous autres, dans nos groupes, quand on y va, là, Pat a toujours refusé qu'on aille vers de la girafe, de l'éléphant, du rhinocéros, lion, on touche pas à ça. T'sais, les choses qui sont pas nécessaires, on y touche pas, littéralement. Fait que nous autres, on est beaucoup plus dans le commun, c'est-à-dire les animaux emblématiques que les gens vont chasser en Afrique du Sud, qui ressemblent un peu, en termes de gabarit, à nos cervidés ici. Fait que l'impala, qui est un petit peu plus petit qu'un chevreuil, mais à peu près dans le format d'un chevreuil. On va aller vers, par exemple, le blesbok, qui est aussi dans le même format. C'est aussi avec des belles cornes, c'est de la bonne viande. On va aller vers le gnou, donc le blue wildebeest ou encore le black ou le golden wildebeest, qui sont des animaux qui sont présents quand même en très grande quantité, qui se reproduisent très bien. On va aller vers du koudou, on va aller vers du niala, vers du bushbok. Il y a quand même énormément d'espèces qui sont chassables là-bas parce qu'ils se reproduisent très bien, les populations vont super bien. Et d'en récolter, c'est tout simplement de permettre un renouvellement de la génétique parce qu'on introduit des animaux des parcs d'élevage, de leur parc d'élevage à eux autres par la suite. Donc, la reproduction continue. Donc, on fait un certain contrôle des cheptels. On mange cette viande-là, elle est tout simplement écœurante. Il y a aussi une catégorie de plus petits antilopes, qui sont des mini-antilopes, on les appelle les African Tiny Tens. Il y a 10 espèces de petites antilopes. La première fois que tu vois ça, c'est comme, je peux pas abattre ça, c'est la grosseur de 3 lapins avec des cornes à la tête.
Oh ouais.
Le guide, il regarde, il dit, lui, là, il dit, je veux que tu le descendes. Même si tu le prends pas pour toi, il faut le collecter. C'est un vieux, vieux mâle qui est rendu, stérile. Donc, il peut plus accouplé de femelles, mais il contrôle tout le territoire ici, fait qu'il n'y a plus un petit mâle qui peut accoupler les femelles dans le coin, fait que la population est en déclin. Il faut le récolter. Je pense, OK, on va le ramasser. Finalement, moi, j'ai fait cette récolte-là, mais c'est un peu il y a beaucoup, beaucoup de pourvoyeurs consciencieux qui essayent d'amener les gens qui voulaient faire le Big Five à dire, ben pourquoi tu ne ferais pas le Tiny Tens à la place? Ça se reproduit comme du lapin. C'est de la très bonne viande. Puis on en a à profusion. Ça se reproduit à côté d'embarrure. Okay. Les pourvoyeurs qui sont consciencieux, c'est ce qu'ils font.
Puis est-ce que le niveau de difficulté, ben je ne sais pas, moi, que tu as parlé tantôt d'un animal en Afrique du Sud qui s'apparente au chevreuil qu'on connaît ici, nous autres, là, qui est un cerf de Virginie, c'est ça? Nous autres, c'est ça?
Nous autres, c'est le cerf de Virginie. Là, je te parlais, mettons, il y en a quelques-uns, là, mais essentiellement, l'impala, qui est le plus commun. Le blesbok est pas mal dans la grosse, un petit peu plus petit en gabarit, mais ça ressemble, si on veut, c'est ce qui s'apparente le plus au cerf de Virginie.
Mais est-ce que le niveau de difficulté est sensiblement pareil à ce que nous, on doit faire ici au Québec?
Non, c'est plus facile, par exemple, parce qu'ils sont là en beaucoup plus grande quantité, donc c'est plus facile. Par contre, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus résistants. Les organes sont un petit peu plus vers l'avant, fait qu'on va faire un tir beaucoup plus dans l'épaule pour faire ça rapide et propre. Mais on se rend compte rapidement là, sur certains de ces animaux-là que même dans la vidéo de préparation, quand on arrive, parce qu'on a en arrivant là-bas, on va au champ de tir, mais on a aussi un cours obligatoire sur le placement de tir pour respecter ces animaux-là. Et on nous dit dès le départ, sur tous les animaux ici, même si on utilise des gros calibres comparés à ce que vous utilisez d'habitude, soyez préparés à tirer plus qu'un coup. Là, tu vois, la première impala passée, je dis, ben voyons donc. Ben, effectivement, c'est fait tough en tabarouette. Les impalas, généralement, c'est un coup et on le récolte. Mais quand on commence à tomber dans les blue wildebeest, les kudus, certains animaux comme ça, les red artebeest, c'est le deuxième antilope le plus rapide d'Afrique après le tsetsébé. Okay. C'est excessivement dur à tirer. Mais des fois, là, ça peut aller à 4 coups. Là. Puis c'est pas parce que la balle est mal placée. On a couru un animal sur 1,8 mille dont Kate avait placé une balle sur la pointe du cœur et les deux poumons dessoufflés. C'est excessivement résistant.
C'est tough, hein?
Oh oui. Mais tu sais, essentiellement, aujourd'hui, on regarde les grandes destinations qui sont hyper populaires alentour ici puis aux États-Unis. Bon, on regarde les prix versus les prix qu'on réussit à avoir pour aller là-bas pour se dépayser complètement. C'est pas juste la chasse, là. On a, dans les groupes l'année passée, il y a un de mes chums qui était là. Lui, il s'endort en pensant à chasser. Il se réveille. Écoute, il va aux toilettes, puis je pense qu'il fait semblant de chasser. Il vit pour la chasse. On l'amène là-bas, je dis, il va triper. Moi, on n'a pas fini avec lui, ça va être épouvantable. On finit le voyage. Puis, Steve, qu'est-ce que tu as aimé le mieux? Puis là, il n'y a pas d'erreur. Il a vraiment récolté des très beaux animaux là-bas. Là. Qu'est-ce que tu as aimé le mieux? La bouffe. Hein? On mange des viandes qu'on n'a jamais goûtées, qui sont absolument écœurantes, faites sur le braille, sur le feu, badigeonnées avec la sauce qu'ils ont faite avec les prunes qu'ils ont ramassées dans les arbres. Les odeurs là-bas, d'abord, le bois avec lequel on cuit nos aliments, c'est un bois qu'on ne peut plus vraiment importer parce qu'il est protégé pour que les gens là-bas puissent se chauffer. C'est pas parce qu'il est rare, mais de l'ébène et du ironwood, ça sent le chocolat quand ça brûle, ça donne un goût à la viande qui est écœurant. Le premier soleil, le premier matin que tu vas te lever, tu vas voir un soleil africain levé, tu pognes un caletor de 2 minutes. Les oiseaux, les odeurs. Nous autres, on est là aussi dans la partie de l'année où est-ce que pour eux autres, c'est l'automne. Pas d'insectes piqueurs, pas de scorpions, pas d'araignées dangereuses, pas de cobras ou de serpents, de mambas noirs, de quoi que ce soit. On a la paix, on a chacun notre chalet à l'air climatique. Ils lavent notre linge à tous les jours. C'est-à-dire, on est bien traité en tabarouette. Puis c'est une des premières places dans le monde, puis j'en ai fait quelques-unes. Là. C'est une des premières places dans le monde. Même la première fois, je ne les connaissais pas, à part leur avoir parlé par courriel, où est-ce que j'arrive là comme j'arriverais chez mon frère. C'est hyper convivial, pas déstabilisé. Tu sais, déstabilisé positivement dans le sens que ça t'amène psychologiquement et émotivement, ça t'amène complètement ailleurs parce que c'est toutes des choses que tu ne connais pas, fait que tu assimiles tout ça. Mais zéro déstabilisé négativement, c'est comme ça coule là, comme de l'eau. Là. C'est super le fun là-bas. C'est jamais je pensais. Puis l'année passée, c'était la première. L'année passée, ouais, 23, 22, c'était la première fois que j'amenais Kate là-bas. Et Kate, au départ, ne voulait rien savoir de venir. Elle dit, moi, là, fais-moi un trip sur un lac dans le nord, parce qu'on va aller pogner de la grosse soude grise, là, puis laisse-moi tranquille avec ton Afrique. Mais justement, juste de venir une fois, elle tombe en amour. Le premier matin, elle avait les yeux dans l'eau quand on a viré le premier croche dans la brousse en arrière, puis il y avait des girafes en avant d'elle. Elle avait le soleil africain qui se levait en arrière. Ça sentait bon, les oiseaux qui chantaient. Fait comme, je suis pas capable de te décrire mon sentiment. Je suis pas capable de le saisir puis de te le décrire tellement. Là, je vis un moment où est-ce que je suis comme complète avec moi-même puis ce qui m'entoure. Puis Je ne suis même pas capable de te décrire comment je trippe.
Ça peut coûter combien un périple comme ça de 10 jours en Afrique du Sud?
Écoute, tu vas rire. Pour les gens qui ne chassent pas, là, par exemple, là, ce qui est le meilleur exemple, là, avion compris, pourboire compris, parce que nous autres, on a négocié tout dans la même patente, là, avion, pourboire, bouffe, boisson alcoolisée, boisson non alcoolisée, linge lavé à tous les jours, la chalet privé, ton transport, donc avec un guide tout le temps, puis ton transport de l'aéroport à là-bas, c'est 3 900 $ canadiens. Je veux dire, juste le billet d'avion, si tu t'informes par toi-même, là, c'est 16 700 $.
Ouais, c'est ça.
Puis là, tu es en Afrique. Les chasseurs, ils viennent avec nous autres pour 4 100 $. Là, tout est inclus. Là. On arrête au dépanneur, tu essaies de t'acheter une bouteille de liqueur puis une puis un chip, là. Tu ne seras jamais capable de le payer. Là. C'est le guide qui va le payer à ta place. Là. C'est du vrai tout inclus. Il n'y a pas de frais de trophée supplémentaire ou de quoi que ce soit. La seule chose qu'on va payer en supplément pour les chasseurs, parce que ça, ce n'est pas la responsabilité de la pourvoirie, évidemment, c'est pour ramener nos trophées ici, ramener les peaux, les têtes avec les, donc les crânes avec les cornes. On va payer pour une préparation phytosanitaire, pour une expédition dans les normes, puis on va payer un frais de douane ici. Là. Donc, on va payer pour ramener ces animaux-là. On ne les fait pas taxidermiser là-bas parce qu'ils chargent dans le transport, dans les cargos, au volume. Fait qu'une fois taxidermisé, le volume est plus important que le prix qu'ils pourraient charger pour le poids non taxidermisé. Fait que tu payes la totale. Fait qu'on les ramène, puis on les fait taxidermiser ici. On a beaucoup, beaucoup de taxidermistes qui sont spécialisés là-dedans. Mais tu vois un peu dans les prix, là, je veux dire, c'est... Toi, on est arrivé là, on a regardé si c'était halable pour des Québécois. Le menu, on est tombé sur derrière, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les chasseurs, je te disais, 4 100, puis ils achètent leurs animaux là-bas. Mais tu sais, acheter les animaux là-bas, vous dire que, comparé à, mettons, acheter un chevreuil ici en entour, quoi que ce soit, parce que c'est le meilleur comparable que tu peux avoir. Ben, un Impala, ça tourne dans les alentours de 500, les Blessbox, 500, 550. Fait que, tu sais, tu peux te faire un trip, pas mal trippant, dans le coin de 5 000 $ en tout inclus, en ramenant 2, peut-être 3 animaux pour une chasse en safari africain. Les accompagnateurs, ben, eux autres, là, comme je te disais, à 3 900, sont avec nous autres tout le long. Ils embarquent dans un pick-up avec nous autres. On est, dans le fond, on est positionné dans la boîte d'un pick-up. C'est aménagé pour faire de la chasse de style safari. Il y a des beaux bancs en cuir rembourrés. Puis quand on arrive sur les animaux, ben là, on peut faire feu de l'eau, on descend, puis on traque les animaux, puis on va les chercher par après. Les accompagnateurs peuvent nous suivre partout où est-ce qu'on va. On rentre dans la brousse. Fait qu'on en a beaucoup cette année qui viennent avec nous autres pour faire de la photographie, pour photographier les animaux, parce qu'évidemment, puisqu'on est à la chasse, on va encore plus d'un coin où est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux. On va aller se promener sur le long du Limpopo, voir des crocodiles, des hippopotames, des trucs comme ça. On voit en moyenne, je sais pas, 125-150 animaux par jour minimum. Puis ça, c'est de jour. Parce que la nuit, tu as différentes sortes de singes aussi, des petits marsupilamiaux qu'on appelle les bush babies, qui viennent nous voler du chocolat dans la bouche. Ils descendent des arbres au lodge, puis ils viennent nous prendre le chocolat dans la bouche. On a évidemment de la déprédation qui se fait de nuit aussi. Fait que c'est possible de ressortir avec les guides quand ils font de la déprédation. Donc du chacal, de la hyène, des small spotted genet, des animaux comme ça qui sont nuisibles pour le bétail. Et pour les animaux qu'on chasse. Donc, on va faire de la déprédation. Tu sais, c'est dans l'ensemble, là, c'est si tu es dans la bonne pourvoirie, c'est une expérience extraordinaire dans tous les sens, juste d'être là. Mais quand tu es avec un pourvoyeur qui fait de la gestion comme ils le font, donc la déprédation, protéger les troupeaux, etc., c'est d'autant plus trippant parce que pendant que tu es là, même si tu ne connais rien à la chasse, tu vas te rendre compte des efforts de conservation qui sont mis en place et tu dois te rendre compte de la collaboration avec les peuples locaux qui sont très, très, très limitrophes avec le territoire où est-ce qu'on chasse, à qui on envoie la viande et à qui on facilite la vie de beaucoup d'autres façons aussi pour s'en faire des amis. Et c'est pas pour rien qu'on les voit régulièrement sur le territoire parce qu'il y a un arbre qui est tombé, ils sont en train de l'enlever ou rendre service en balayant sur le camp ou quoi que ce soit parce que la synergie est là. Fait que tu vis une expérience qui est tripante puis qui sort complètement de ce qu'on a toujours exposé de l'Afrique dans les grands médias. C'est drôle, les grands médias nous en exposent des choses. Hein?
Oui, bien, effectivement, c'est la preuve des fois qu'il faut faire nos propres vérifications par nous-mêmes, puis c'est essayer de faire confiance aux grands diffuseurs. Mais c'est le voyage d'une vie, Martin. Puis pour les gens qui seraient peut-être intéressés à faire ce type de voyage-là, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous autres? Est-ce que vous autres...
Directement.
Oui, c'est ça, OK.
Oui, bien, c'est plus facile de même parce que, tu sais, on n'est pas agence de voyage. Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on est allé négocier un prix. Puis après ça, quand vous communiquez avec nous autres, on parle un peu de ce qu'on va faire là-bas, des places qui restent. Puis on vous soigne à l'agent. Après, ils s'occupent de vous autres, là, les paiements, ça fait longtemps, on ne veut pas rien savoir de ça. C'est pas notre business pantoute. Nous autres, on fait des émissions. Mais oui, écrivez-moi en privé sur Facebook. Prenez pas le Facebook animateur, là, c'est le web qui watch ça. Là. Prenez mon Facebook privé. Là, puis écrivez, Martin, je serais intéressé à venir en Afrique. Il reste quelques places pour 2023. On a quatre groupes. Kate et moi, on va être là dans deux groupes. On a un groupe VIP au mois d'avril. Lui, il est archi plein, au bouchon terminé. Puis on a un groupe Filles de bois au mois de mai. Le groupe Filles de bois, il reste de la place. Puis il y a deux groupes entre les deux où est-ce que Pat, qui est mon grand chum, qui a été propriétaire d'une pourvoirie en Afrique, il reste là pour les deux groupes entre les deux avec Priscille et sa femme. Donc, il reste